Je suis très content de venir, comme chaque année depuis que j'ai pris mon poste, c'est-à-dire depuis 2 ans quasiment, intervenir devant l'IHEMR pour présenter ce qu'on fait au ministère de l'Intérieur, au bureau central des comptes. Je pense que vous avez vu la petite notice que vous avez donnée de l'IHEMR. Moi, j'ai un parcours assez classique, qui est le parcours de mes collègues que je vois à la télé, qui est un parcours dans la préfectorale après l'ENA, deux postes, un peu de directeur vétérinaire en Auvergne, ce qui était à l'époque la région Auvergne, ensuite comme secrétaire général. Et après, j'ai fait une petite parenthèse, je suis parti en ambassade, occupé de toutes autres questions en Inde, terre qui, on va dire, de religiosité, d'expérience. Voilà. Et le hasard des choses, et peut-être aussi un peu d'intérêt que j'avais pour ces questions-là, en fait que j'occupe depuis 2 ans le bureau central d'études au ministère, qui est un bureau d'administration centrale comme les autres. Il est si bien comme les autres que des députés qui posent des amendements pour en proposer le rattachement qui est à Matignon et qui est ailleurs, et qu'il a été l'objet pendant très longtemps de lutte formée entre les ministères pour s'en voir l'attribution. Il y avait même eu une commission qui s'appelait la commission de la hache, et ensuite s'est transformée en commission de la guillotine en 1945-1947, qui était la commission qui a été créée pour remettre l'administration en marche après l'occupation. Et la question du rattachement du bureau central des cultes a été l'objet de débats, de notes et d'un combat acharné, et qui s'est réglé sur la table du Conseil des ministres par le président du Conseil lui-même, Ramadier, qui a tranché pour un maintien au ministère de l'Intérieur. À l'époque, en fait, en réalité, ce qui se jouait, c'est qu'il y avait un ministère de la Justice qui était chrétien-démocrate, et un ministre de l'Intérieur en titre qui était réputé pour ne pas avoir beaucoup de sympathie pour l'Église catholique. Donc il y avait l'idée qu'il fallait mettre le bureau central des cultes à l'abri, ce qui ne s'est pas passé. Cela dit, sous la 4e République, les ministres valsaient régulièrement, ce qui fait que finalement, je ne suis pas certain que ça ait eu beaucoup d'impact sur le destin de la façon dont la République traitait les cultes. Donc, ces blagues-là mises à part, la particularité du bureau, c'est qu'il s'occupe de ce dont l'État ne doit pas s'occuper au terme de la loi, qui sont de questions religieuses, puisque les deux articles principaux de la loi de 1905 nous expliquent bien que l'État, les pouvoirs publics et les religions sont séparés. Pour autant, il faut bien s'en occuper sous un angle, qui est un angle que je vais être amené à développer dans mon propos, et il faudra m'arrêter si vous avez traité de ce sujet-là, qui est le régime des cultes en France. Très peu. Donc voilà, qui est le régime des cultes en France, c'est comment dans un régime où l'État n'a pas à connaître du culte, mais le culte non plus n'a pas à connaître les affaires de l'État, est organisée cette coexistence. Cette coexistence est organisée selon un principe assez classique du droit public, qui est le culte, je reviendrai sur cette notion-là, est une liberté publique, qui ne peut trouver ses limites que dans l'ordre public. Le raisonnement un petit peu classique de droit public, et que le Conseil constitutionnel fait respecter. Tout le programme est situé dans les articles 1 et 2 de la loi de 1905, l'article 1er qui pose les grands principes de liberté, la liberté de conscience, la garantie du libre exercice des cultes, sous les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Tout le programme est dans l'article 1er, et l'article 2 en vient à nous expliquer les conséquences qui sont tirées de ces principes-là, qui sont la non-reconnaissance, le non-subventionnement, le non-salariat. Le titre de ce cours est traditionnellement appelé « La laïcité en France, de point le bureau central des cultes ». Alors pourquoi la laïcité, sachant qu'on a quand même souvent tendance à dire que la loi de 1905 est l'instituteur de la façon dont le pouvoir public ont des relations avec les cultes. Or, le mot laïcité ne figure pas une ligne dans la loi de 1905. En réalité, la laïcité, c'est un principe j'imagine que vous le connaissez déjà bien, que vous l'avez en plus étudié sous des angles philosophiques et historiques, mais c'est un principe qui a vocation, c'est un principe d'organisation des pouvoirs publics, et qui ne trouve pas sa concrétisation uniquement dans le rapport qu'a l'État avec les cultes. Il trouve d'abord sa concrétisation dans le fait que l'enseignement est laïque. Et en fait, en réalité, la laïcisation des pouvoirs publics, elle commence bien avant la loi de 1905. Elle commence déjà à la Révolution, lorsqu'on a laïcisé l'État civil. Alors, on n'aura pas le temps de revenir là-dessus, mais à l'époque de la Révolution, il y a déjà des expériences qui sont très intéressantes de rapports entre les pouvoirs publics et les cultes qui vont depuis la séparation stricte de 1795 jusqu'au concordat de 1801 et les mesures qui ont été prises pour son application, qui ont à peu près utilisé tout le panel de ce qu'on peut avoir comme rapport entre les pouvoirs publics et les cultes. Et donc, disais-je, la laïcité, elle a trouver à s'appliquer d'abord dans la laïcisation de l'état civil, dans la laïcisation des fonctionnaires de l'état, dans la laïcisation de l'enseignement, dans la laïcisation des cimetières, dans la laïcisation des tribunaux. On a fait des lois dans les années 1880 pour retirer les crucifix des tribunaux. On a fait des lois pour soumettre, par exemple, les prêtres catholiques au service militaire. Ils n'y étaient pas. Et c'est tout ce processus de laïcisation qui trouve son achèvement en 1905 par la loi de séparation. C'était un petit peu compliqué d'opérer une séparation alors même que le fonctionnement de l'État était concrètement très imbriqué avec le fonctionnement de l'Église catholique. Et donc on se retrouve en 1905 avec la nécessité de redéfinir un mode relationnel nouveau, et le Bureau central des cultes est l'outil de ce mode relationnel avec les cultes, en ayant encore une fois en tête que ce mode relationnel-là, bah, il trouve à s'appliquer dans l'enseignement, dans les armées, dans la justice, dans absolument toute l'action de l'État. Alors, Bureau central des cultes, central, c'est parce qu'il y a un bureau qui n'est pas central, c'est le bureau du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui est ce qui reste du concordat napoléonien, puisque au moment de la séparation de 1905, les trois départements d'Alsace-Moselle n'étaient pas attachés à la France, ils étaient à l'époque attachés à l'Empire allemand, et lorsque les lois de rétablissement de la légalité républicaine ont été prises dans les années 20, il a été décidé de ne pas étendre une partie des textes qui s'appliquaient dans la France de l'intérieur, ou dans la vieille France, comme on dit parfois, et notamment le régime de séparation, pour des raisons très politiques, c'est-à-dire que les années très compliquées de rapport entre les églises et l'État, qui sont en gros les années 1880, culminant dans les années 1904-1905, ont été finalement assez bien oubliés dans le charnier de la guerre, et il n'était pas question de rétablir les rivalités qui avaient existé à ce moment-là. Et en particulier, les Alsaciens mosellans ont fait savoir qu'ils n'étaient pas très... qu'ils ne souhaitaient pas qu'on importe ces conflits-là en Alsace et en Moselle. Et le gouvernement français, après avoir perdu 1,4 million de soldats, n'avait pas très envie de jouer le jeu de la discorde et de jouer d'un référendum sur ces questions-là. Donc la légalité républicaine n'a pas étendu en Alsace-Moselle un certain nombre de textes, les lois de 1901 et la loi de 1905 également. Et c'est pour ça qu'on a un régime spécifique, et il y a un bureau qui s'appelle le bureau des cultes d'Alsace, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, dans l'ordre alphabétique, et qui traite des cultes reconnus, qui traite des cultes qui sont issus du régime concordataire et du régime de l'Empire allemand. Le concordat de Messidor, les articles organiques de 1804 et le décret de 1808 sur les Juifs, et ensuite un tas de textes qui ont modifié ce régime-là. On pourra revenir sur le régime du concordat, qui est un régime en réalité extrêmement complexe, si vous le souhaitez. Donc voilà pourquoi central. Et les cultes, et ben c'est parce que précisément, dans un régime qui est un régime de non-reconnaissance, il n'est pas question pour la République de déterminer ce qui est une religion et ce qui n'est pas une religion, et la République se contente de constater matériellement, c'est-à-dire concrètement, physiquement, qu'il existe des pratiques qu'on appelle culte, et cette pratique-là est une pratique qui est une liberté publique. Alors le Conseil d'État, qui dès 1905, ensuite a dû juger tout un tas de choses qui avaient très occultes, ce qu'on faisait concrètement des biens, qui étaient des biens publics, ensuite qui ont été dévolus sous différents... de différentes manières aux différentes religions. Concrètement, ce qu'on faisait dans l'espace public, est-ce qu'on avait le droit de faire des processions dans l'espace public, donc tout un tas de questions qui ont dû être tranchées, et le Conseil d'État a fini par développer une définition. Alors, la définition la plus récente qu'il a donnée dans son rapport de 2004, c'est la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse de certains rites ou de certaines pratiques. Donc, il y a des éléments matériels, des rites et des pratiques. Il y a un élément de finalité, c'est une réunion pour les raisons d'une croyance religieuse, et qu'on constate par la célébration de cérémonies. Et c'est tout. Le principe de séparation veut qu'on n'aille pas plus loin dans la définition de ce qu'est un culte en particulier. On ne trouve pas dans les textes le mot religion. Le mot religion suppose de reconnaître une institution. Or, par exemple, le droit interne ne reconnaît pas le droit canonique, parce que le culte s'organise comme il le souhaite. Alors, toute la question, c'est comment on traite les zones de tangence. Et ce sera un peu le fil rouge de mon propos. Je voulais vous faire un petit retour historique sur la création de ce bureau central, vous expliquer ce qu'il fait concrètement pour l'appliquer, ce régime des cultes que j'ai évoqué, et puis on pourra prendre quelques exemples si vous souhaitez, mais ça, à mon sens, c'est plutôt dans l'échange qu'il faudra qu'on les traite. Est-ce qu'on traite de régime particulier, le régime des Outre-mer, le régime alsacien-mosellan, je pourrais en parler un petit peu plus. Est-ce qu'on parle du régime des aumôneries, qui est une exception prévue à l'article 2 de la loi 1905. Ce qu'on a concrètement dans les armées, dans les prisons, dans les hôpitaux, des religieux qui sont rémunérés par l'État. Pour autant, ce n'est pas des fonctionnaires. Et c'est un régime qui est intéressant à comprendre, parce qu'on comprend la mécanique entre ce que c'est que la garantie du libre exercice des cultes et quelle liberté implique le principe de non-reconnaissance. Et enfin, on pourra discuter un peu plus en détail des modalités d'un dialogue, comment on dialogue avec les cultes dans un régime de séparation. Alors, je ne veux pas revenir sur les grands mouvements historiques qui ont conduit à la séparation, partant des guerres de religion, en passant par les expériences révolutionnaires, et puis l'expérience un peu amère du durcissement du pouvoir politique au XIXe siècle, à la fois avec un balancement entre un pouvoir politique parfois autoritaire, sous Napoléon III, par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les débats de loi 1905, il y a des amendements qui sont complètement imprégnés de la volonté de législateurs républicains de sortir des réglementations très attentatoires aux libertés publiques du Deuxième Empire. Et à contrario, des périodes de grande libéralisation et cette grande libéralisation, surtout à partir des années 1880, avec l'avènement de la République. J'ai parlé des lois sur l'école, 1881, mais il y a aussi la liberté syndicale, la liberté de la presse, la grande loi de 1881, la liberté d'association, la loi de 1901, mais tout ça dans une période très très complexe politiquement, avec à la fois certains fonds de revanchisme à l'égard de l'Église catholique vu comme ayant été trop proche des pouvoirs autoritaires et aussi trop proche du pouvoir Dreyfusard. Et c'est un élément qui est très important dans les années 1900-1904, quand se cristallise la nécessité de la séparation politique, c'est qu'on a une tension anticléricale très forte qui culmine en 1904 avec la deuxième expulsion des congrégations religieuses. Et donc on se retrouve en 1905 avec une rupture franche, nette, massive. On sort d'un système concordataire, le système concordataire qu'on voit parfois comme une organisation bonhomme des cultes par le pouvoir public, en réalité, c'est un système de monopole. C'est-à-dire que jusqu'en 1856, on ne peut pas ouvrir une église protestante, on ne peut pas ouvrir un temple juif, alors a fortiori catholique, parce que catholique, on défend la hiérarchie canonique, on ne peut pas ouvrir un culte qui ne soit un culte reconnu, officiel. Donc c'est un régime de contrôle par l'État de la liberté religieuse. À partir de 1856, il y a quelques légères libéralisations du système, c'est-à-dire qu'en gros, sous la pression notamment de la diversification du culte protestant, on a la possibilité d'organiser des cultes par dérogation préfectorale. Alors les évangéliques ont beaucoup demandé ça, et c'est pour ça que les protestants, on les entend souvent, les institutions protestantes, on les entend souvent expliquer qu'elles étaient très à la manœuvre en 1905 pour penser la loi, la portée, etc. Et elles l'étaient effectivement, et pas uniquement parce que Ferdinand Buisson était issu d'une famille évangélique. Elle était aussi parce que c'était une forte demande du protestantisme de pouvoir se libérer du carcan que représentaient les articles organiques qui prévoyaient un monopole de l'État pour l'organisation du culte. Et donc on se retrouve avec ce système de monopole qui ne se passait pas très bien, mais qui existait et qui avait le mérite de sa cohérence avec un système de liberté. Et on avait une grosse administration qu'on appelait la direction des cultes, qui avait été un ministère jusqu'à 1814, dont le premier titulaire avait été Portalis, le rédacteur du Code civil, c'est-à-dire l'importance que Napoléon apporté au règlement de la question religieuse. Donc on se retrouve en 1905, au fait, il faut solder. Et il faut solder, ça veut dire concrètement, on va dissoudre ce qui organisait les cultes en France, qui étaient les établissements publics du culte, et on va distribuer aux cultes sur le territoire le matériel dont ils ont besoin pour exercer le culte. Alors, comme vous le savez, ça se passe assez mal. C'est-à-dire que le grand débat, c'est qu'est-ce qu'on fait des églises, qu'est-ce qu'on fait des temples, qu'est-ce qu'on fait des synagogues, des presbytères, des dispensaires, des écoles, etc. La vision du législateur, c'est la vision de la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir temporel, mais c'est une vision qui imprègne beaucoup notre vision aujourd'hui du régime des cultes, qui est la séparation entre l'ordre du religieux et l'ordre du civil. Donc le législateur dit, on va inventorier ce qui sert à l'exercice du culte. L'exercice du culte, j'ai dit, c'est les cérémonies. Et ça, on va le donner au culte. Et le reste, on va le garder, le donner à des établissements bienfaisants. On va garder les hôpitaux, on va garder les dispensaires, et on va prendre au culte tout ce qui n'est pas du ressort de l'exercice du culte. Alors ça se passe assez mal. Ça se passe assez mal pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, c'est une réforme de société très forte, c'est-à-dire on acte la séparation du pouvoir politique et du pouvoir catholique. C'est ça qui se joue, c'est pas vraiment la séparation avec les protestants et les juifs qui étaient plutôt très demandeurs, au contraire. Et par ailleurs, parce que parmi les promoteurs de la séparation, il y en a qui ont des arrière-pensées et qui se disent c'est l'occasion du coup de grâce contre l'Église catholique. Et ça donne lieu à des débats en avril 1905 à la Chambre, très très engagés sur l'article 4. Et étonnamment, si vous prenez la loi de 1905, dont des grands grands principes sont figurés dans l'article 1 et 2, les articles suivants sont très très compliqués à lire. Je ne sais pas si vous êtes aventuré sur ce texte, probablement d'ailleurs. Mais l'article 4, il est extrêmement compliqué à lire. L'article 4, c'est un article très technique qui explique ce qu'on va faire, des biens qui appartiennent aux établissements publics du culte, à qui on va les donner, selon quelle procédure, et si jamais les gens ne sont pas d'accord, qu'on va faire le Conseil d'État. Mais en fait, derrière cette question-là, pour l'Église catholique, il y a une question fondamentale, c'est, mais si jamais quelqu'un se proclame catholique, crée son association culturelle et réclame la continuité de l'Église canonique, que va faire l'État? Il est probable qu'à l'époque, au sein de l'Assemblée nationale, ce qui était à l'époque la Chambre des députés, il y en avait qui avaient des idées, et que si ça pouvait enfoncer un coin contre l'ultramontanisme et qu'on pouvait saisir cette occasion-là d'avoir la création d'une église très française, très indépendante de Rome, il ne fallait pas se priver. Et toute la cristallisation du débat sur l'article 4 se termine par un amendement porté, alors je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait déposé, mais en tout cas porté notamment par Jaurès, qui dit dans l'article 4 que dans l'attribution des biens qui appartiennent aux établissements publics du culte, ils seront attribués aux associations qui respectent les règles d'organisation interne du culte dont ils se proposent d'assurer l'exercice. Donc, dans cet article 4, on reconnaît qu'il existe des règles internes à l'organisation de certains cultes et qu'il convient de les respecter. Et ce que les juristes ont vu dans cet amendement, c'est l'idée que la séparation, c'est tenir les cultes à distance du pouvoir politique, mais c'est corollairement tenir le pouvoir politique à distance des cultes. Ce n'est pas au pouvoir politique d'expliquer comment va fonctionner l'organisation interne des cultes. D'où d'un principe qui est très très fort aujourd'hui dans l'ordre juridique et qui n'était peut-être pas totalement anticipé en 1905, en tout cas pas avec cette force, c'est que c'est un mouvement de libération réciproque. Et que nous, au quotidien, dans la pratique qu'on a dans le droit des cultes, le principe de libre organisation interne est très très fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concrètement porter un jugement sur ce que professe une religion, la façon dont elle s'organise, pourvu qu'elle respecte l'ordre public. Donc ça se passe très mal, disais-je, pour cette raison-là, parce que, et pardon, juste pour l'anecdote, parce que je trouve qu'elle est très sensible, Jaurès, qui à ce moment de cristallisation, en avril 1905, Jaurès va devant la Chambre et a cette phrase très forte, notamment en direction de l'extrême gauche, qui était portée par un député qui s'appelait Allard, qui avait en lui très envie de porter un coup contre le cléricalisme. Et il a dit, la République est révolutionnaire, elle n'est pas schismatique. Donc, c'est-à-dire, en gros, il suffit avec vos rêves de créer le schisme par la loi de séparation. rendons la liberté aux églises et qu'à la question sociale advienne. C'était ça ce qu'il y avait derrière ces débats-là. Et donc en 1905, ça se passe très mal. Et pour autant, ben, on fait cette séparation-là. Alors d'une manière qui n'était pas tout à fait comme les législateurs l'avaient anticipé. J'en parlais avec Xavier pas plus tard qu'hier. J'entends souvent aujourd'hui dans le débat public l'esprit de 1905, on n'est pas conforme à la loi de 1905. Bah, oui, clairement, on n'est pas conforme à la loi de 1905. Parce que la loi de 1905, telle qu'elle est votée, c'est une loi qui fixe un monopole d'exercice du culte à un type d'association à peine de dissolution. Et dès 1907, en réalité, on vote une nouvelle loi, la loi du 2 janvier 1905, concernant le libre exercice des cultes, pour dire, mais finalement, le culte, on peut l'exercer sans formalité sur une initiative individuelle ou simplement en déclarant une association, pas forcément en déclarant une association aussi normée et aussi autant sous le contrôle de l'État qu'une association cultuelle. Et cette loi, elle est votée pile un an après le vote de la loi de 1905. Pourquoi ? Parce que ce vote-là, il intervient au moment où la loi de 1905 entre en vigueur, parce que les catholiques ne veulent pas jouer le jeu de la loi de 1905. Et on a une année 1906 qui est très dure. Il y a en France un climat de guerre civile qui est lié à cette question et qui est aussi lié aux grèves insurrectionnelles, qui fait tomber le gouvernement. Le gouvernement tombe dès mars 1906 sur la question des inventaires des biens d'église. Et le gouvernement remplacé par le gouvernement sarien avec Clémenceau qui devient ministre de l'Intérieur et ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Aristide Briand, le rapporteur de la séparation. Et en fait, il joue très rapidement l'apaisement avec la fameuse sortie de Clémenceau devant le Parlement. La question de savoir si on ouvrira ou n'ouvrira pas un tabernacle ne vaut pas la vie d'un homme. Donc, il donne des instructions de modération au préfet. L'ordre public, ça se calme un peu sur le plan d'ordre public, c'est-à-dire que les inventaires, concrètement, sont quasiment terminés de toute façon, et permettent la séparation, et on ne va pas aller chercher plus loin la guerre entre la France catholique et le reste de la France. Et dès 1907, les biens des églises, les biens, pardon, des temples et des synagogues sont transférés aux consistoires qui ont été créés, aux associations cultuelles qui ont été créées, et après, chacun en fonction les Juifs ont souhaité garder l'organisation napoléonienne héritée du Grand Sanhédrin de 1808. Les protestants, eux, ont créé dès l'année 1905 la Fédération protestante. Ils se sont organisés rapidement sous forme d'église et ils récupèrent les biens. Sauf que l'église catholique ne veut pas. Le pape le dit clairement dans deux encycliques, début 1906, Gravissimo Officii Munere et Vehementer Nos. Il dit non, on ne créera pas une association cultuelle. Donc bah, l'État se retrouve très ennuyé avec sur les bras un patrimoine religieux énorme qu'il avait, n'oublions pas, dès 1789 nationalisé. La question de savoir comment on va faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va empêcher quelque chose comme 90% des croyants en France de ne pas pouvoir exercer le culte. Donc bah, voilà, cette loi est votée début 1907, il y en a une autre qui est votée en avril 1908 qui permet de mettre à disposition des cultes, quand bien même ils n'ont pas réclamé les cultes, dans les églises, les temples et les synagogues, il y a quelques églises, quelques synagogues qui sont concernées, la synagogue de la Victoire par exemple, à Paris, et puis la plupart des églises qui sont aujourd'hui propriétés communales, les églises paroissiales, pardon, et les cathédrales, 87, qui sont propriétés de l'État, mais qui sont mises à disposition des cultes, selon un régime qui est encore une fois un régime très protecteur de la liberté de culte, qu'on appelle le régime de l'affectation légale. Et ce régime de l'affectation légale, il prévoit que ben, quand bien même l'Église appartient à la commune, eh bien c'est l'Église catholique affectataire, le curé qui en est affectataire, qui décide de tout, qui décide de qui l'utilise, à quel moment, et quand bien même le maire de la commune considérerait mais qu'à ce moment-là, il n'a pas besoin de son bien pour son culte, il en est l'affectataire, donc il peut décider de ce qu'il en fait. Alors, en pratique, il y a des modus vivendi locaux. Alors, ça a donné lieu à des jurisprudences de Don Camillo et Pépone dans les années 1910 et 1920, savoir qui avait le droit de garder la clé de l'église. Alors, s'il y a un accès extérieur pour aller au clocher et que le clocher est utilisé pour appeler les pompiers, pour sonner le glas, etc. Bah alors, oui, à ce moment-là, le maire peut le garder, mais si ce n'est pas le cas, il ne peut pas, etc. Enfin, il y a tout un tas de jurisprudence comme ça qui dessine en creux avec un droit positif qui est finalement assez qui est peu riche, parce qu'en fait le problème c'est que le débat est tellement enragé que c'est compliqué d'aller devant le Parlement et d'aller tout réglementer. Donc finalement c'est le juge qui finalement trace les traits et puis qui, sur le fondement de ces deux libertés, c'est-à-dire libre exercice interne des cultes et liberté pour l'État d'agir librement des cultes, et ben on trace les lignes. Et c'est de ça qu'est chargé le Bureau central des cultes dès 1911, d'écrire les textes qui ont trait au droit des cultes. Et ce droit des cultes, c'est ce droit très complexe que j'ai évoqué là, qui est l'idée qu'on crée des associations culturelles, mais pas forcément. Et que ces associations culturelles, elles sont sous le regard de l'État, qui n'a pas de jugement à porter sur ce qu'elles font, tant qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Et donc le Bureau central des cultes s'occupe de ça. Alors c'est un métier d'administration centrale, j'ai des collègues qui sont dans d'autres bureaux et qui écrivent aussi des textes qui touchent aux jeux d'argent, d'autres à la biodiversité, certains au droit de l'urbanisme. La particularité du droit des cultes, c'est qu'on se retrouve avec un phénomène social très important qui touche la conscience des hommes, la vie en société, et qui n'a plus qu'un point d'entrée avec l'appareil politique qui est le Bureau central des cultes. Et en fait, qui fait que rapidement, le Bureau central des cultes devient le lieu du dialogue avec les traditions religieuses pour le compte des administrations publiques. Et ce qui fait que dans les missions qu'on exerce, il y a évidemment le fait de faire vivre ce droit, l'écrire quand on le modifie. Là, par exemple, on est en train de faire une modification historique de ce droit. Ça n'a échappé à personne. C'est le Bureau central des cultes qui l'écrit. Mais par ailleurs, il y a des tas de mesures qui sont prises par l'appareil d'État qui concernent les cultes, que ce soit par exemple la fixation annuelle de l'indemnité de gardiennage des églises, que ce soit les décrets de reconnaissance légale des congrégations religieuses sur le fondement de la loi de 1901, que ce soit les modifications statutaires de ces congrégations religieuses, etc., etc. Et donc, outre cette mission-là, c'est adjoint la question du rapport politique avec les cultes, et, qui a pris une dimension tout autre avec l'émergence de cultes nouveaux. Alors évidemment, le culte musulman, dont on parle tout le temps, et le CFCM, qui a les honneurs des journaux en permanence, mais aussi d'autres cultes, comme le culte bouddhiste qui n'existait pas ou quasiment pas à l'époque, ou le culte orthodoxe qui arrive en France au milieu du 19e siècle avec les émigrations, avec les ambassades, et qui aujourd'hui est un culte numériquement très important pour ces raisons-là aussi. Et enfin, l'émergence de la question de la laïcité. La laïcité, c'est ce principe dont j'évoquais l'absence factuellement dans les textes de loi fondateurs du régime des cultes, mais qui prend une dimension croissante avec la question de la visibilité des signes religieux dans l'espace public, dans le service public, et pour lequel, en réalité, il n'y a pas de politique publique centralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau de la laïcité, il n'y a pas de ministère de la laïcité, il n'y a pas de direction de la laïcité, mais qui est en permanence dans le débat public, nécessite de l'expertise juridique, de l'animation, etc., et dont on se charge un peu modestement, mais très en lien avec ceux qui en sont des opérateurs, des vrais opérateurs, c'est-à-dire que le Bureau central des cultes, c'est 10 personnes. On n'a pas d'accueil, quasiment pas de public, on accueille des dignitaires religieux pour l'essentiel, en plus. Mais l'éducation nationale, c'est des millions de fonctionnaires qui sont confrontés à ces questions-là. Donc, ils ont eux-mêmes des services très structurés, ils ont un haut conseil à la laïcité, avec lequel on est en lien, parce que nous, on apporte la vision qui est celle d'un bureau central qui est chargé de tenir la ligne sur le rapport entre les pouvoirs publics et les cultes. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on siège à l'Observatoire de la laïcité, qui est si bien connu. Et c'est pour ça qu'on est fait partie de. On contribue, par exemple, quand des guides sont faits par le ministère des Sports sur la laïcité dans le sport. Parce qu'un ministère métier comme le ministère des Sports, lui, il a sa vision, qui est la vision de ce que c'est que le sport, ce que c'est que cette politique qui est portée par l'État, comment il voit les choses. Et après, ben, notre vision à nous, c'est la vision, une vision de liberté publique, c'est-à-dire, ben, oui, mais il y a aussi le principe de libre de liberté de conscience, et c'est ce principe-là qui est défendu par des hauts niveaux de normes, et ben, il suppose de pouvoir manifester son appartenance religieuse. Alors, comment on fait pour que nous dit notre expérience, le droit sur la conciliation entre la possibilité d'exprimer sa conviction religieuse et la nécessité de réguler ces expressions-là dans le service public, dans le service public concédé, à l'école, dans le sport, dans la vie associative subventionnée. Et à chaque fois, ce n'est pas le bureau central des cultes qui dit le texte, pas du tout, ce n'est pas un texte spécifique, mais en tout cas qui participe de la réflexion sur ces questions-là. Voilà un peu pour une présentation un peu générale de ce qu'on y fait. J'ai essayé un petit peu de l'illustrer avec des exemples. Je ne sais pas si ça vous paraît utile que je précise davantage sur ce que c'est que le régime des cultes, d'autant qu'il est aujourd'hui beaucoup sur la place publique, sur le débat public, et en faisant cette expérience-là d'être pour le compte du gouvernement à la manœuvre sur la modification de ce régime. Enfin, c'est un régime qui est compliqué à comprendre. Vous avez vu les échanges d'opinions dans la presse entre la semaine dernière et cette semaine sur cette question-là. Et c'est un régime qui est très complexe et qui touche à beaucoup de libertés publiques, et de ce fait-là, il a un vrai coup d'entrée. Voilà. Vous avez vu, ce que je propose, c'est peut-être on peut s'arrêter là. Ensuite, on prend des questions sur le sujet, et ensuite, je pourrais développer, si vous souhaitez, la question du dialogue avec les cultes qui me semble être importante, qui, en fait, en réalité, hors période de tempête législative, comme je la vis depuis un an, est une plus grande partie de mon emploi du temps que la rédaction de textes qui bougent tous les 115 ans.
Justement, peut-être, ce qui bouge depuis un an, on comprend bien cette évolution fondamentale. En dehors de ça, quelle est l'activité des essais principales? C'est plutôt de répondre aux demandes des cultes, c'est plutôt de répondre aux demandes décentralisées
du territoire? En fait, c'est les deux, c'est-à-dire que, comme je disais, c'est-à-dire on porte des réglementations. Ouais. Comme on porte des réglementations, ben on répond aux préfectures qui nous demandent oui, il y a le maire de tel endroit qui voudrait utiliser l'église pour faire ça et le curé ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu caricatural, mais pas beaucoup. Ça nous amène à participer à la définition d'un plan cathédral qui a été voulu par le ministère de la Culture pour sécuriser les cathédrales contre les incendies. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des édifices qui sont affectés au culte, qui sont donc sous un régime de liberté. Et en fait, concrètement, on participe aux réunions avec l'Église catholique et le ministère de la Culture pour déterminer qui est responsable de quoi. Beaucoup, beaucoup comme tiers de confiance. Parce qu'il y a une constante, et certains de mes collègues ont fait le choix de cette formation, et je pense que c'est très sain, et je pense qu'ils doivent le vivre dans les fonctions qui sont les leurs. L'État, globalement, est mal à l'aise avec la question religieuse. Non pas que les fonctionnaires soient fondamentalement mal à l'aise avec les faits religieux. Simplement, le positionnement d'un État dans un régime de séparation n'est pas évident. Donc oui, on répond beaucoup à des questions qui nous sont posées, soit par les traditions religieuses, par exemple. Ça a des impacts dans des tas d'éléments de la vie sociale. L'abattage rituel, si on prend l'exemple de l'abattage rituel, on a beaucoup de liens, nous, avec le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, il est dépositaire dans ses compétences de régulation de l'abattage à des fins de sécurité sanitaire et de santé des animaux. Il est dépositaire de réglementations. De réglementations qui sont l'objet de dérogations pour des raisons cultuelles. Dérogations qui sont prévues par les textes européens, qui sont fondées sur le libre exercice des cultes. Et en fait, nous, moi, je ne sais pas concrètement appliquer la réglementation d'abattage rituel. Toujours est-il que le ministère de l'Agriculture se tourne vers nous sur cette question-là, au même titre que le culte juif et le culte musulman, quand il y a des difficultés. Donc, très régulièrement, on fait des points avec les ministères, parce que les uns et les autres ne sont pas très à l'aise dans le rapport qu'ils ont avec les autres. Et en fait, on a beaucoup ces missions de bons offices qui sont des missions de dialogue en réalité, avec les uns et les autres, et notre avis est demandé parce qu'on a cette pratique de l'exercice du culte comme une liberté publique, et parce qu'on connaît les interlocuteurs. Les interlocuteurs sont particuliers.
Ce qui veut dire que quand vous parlez de tiers de confiance, il y a des relations avec les cultes, les représentants des cultes sont très bonnes.
Bon, elles sont très bonnes, elles sont. Oui, de toute façon, c'est un petit peu notre boulot qu'elles soient bonnes. C'est-à-dire qu'on est, on est là pour. Ils font appel à nous parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on soit là comme pour les accompagner dans ce qu'ils leur demandent ou les démarches qu'ils font auprès de l'administration qui sont fondées sur un droit. Par ailleurs, ils sont là parce que la méconnaissance de la complexité du monde religieux fait que ça a besoin d'être éclairé tout le temps. Parce que derrière la question du monde religieux, il y a la question de la dérive sectaire, il y a la question de la radicalisation islamiste, il y a la question aussi de la séparation des églises et de l'État. Et à chaque fois, le pouvoir politique ou les administrations ont besoin d'apporter une connaissance sociologique des religions. Et c'est pour ça qu'en fait, de ces missions qui sont au cœur du métier du groupe des cultes, en réalité, l'essentiel de mon temps de travail en temps normal, c'est le dialogue avec les cultes et c'est la connaissance du fait religieux dans toutes ses dimensions en France et dans le monde, parce qu'en réalité, ces phénomènes-là sont extrêmement mondiaux. Et le pouvoir politique a besoin d'éclairage sur ce qui se passe dans le monde religieux. Et par exemple, lorsqu'on a sur une crise sanitaire, et hypothèse de travail, il y a des mesures à prendre qui concernent l'exercice des cultes. Et en fait, c'est là qu'on découvre que Pessah s'enchaîne avec Pâques, qu'il y a le Ramadan, que, attention, il y a la nuit du destin, et qu'est-ce qu'on fait pour la nuit du destin, d'accord, oui, les bouddhistes, ils ont des fêtes, etc. Et en fait, voilà, il y a besoin d'un... en tout cas, les décisionnaires, ils ont besoin d'une connaissance de ce sujet-là. Et voilà, c'est pour ça qu'une grande partie de ce métier consiste à connaître les interlocuteurs, comprendre quelles sont leurs demandes, les porter éventuellement quand elles sont légitimes, ou en tout cas éclairer ceux qui ont à décider pour, quand il s'agit d'affaires qui touchent aux questions religieuses. Donc voilà, il y a toute une dimension qui est assez agréable hein, de dialogue avec le culte. Et l'approche qui est l'approche théorique, historique, par le culte, par l'exercice de cette... l'exercice matériel de cette activité, en réalité, elle est foisonnante. Parce que quand vous parlez à la conférence épiscopale, vous parlez à des gens qui sont en lien avec les OGEC, qui éduquent environ 15% des élèves sur le territoire national, qui ont des actions, qui ont des hôpitaux, qui ont des écoles, qui ont des services qui accompagnent les plus démunis. Et ça, c'est vrai dans absolument toutes les traditions religieuses. Pardon ?
Les personnes âgées également.
Les personnes âgées également. Et par exemple, nous, on n'a évidemment pas la tutelle des hôpitaux, qui sont parfois des hôpitaux privés chargés d'une mission de service public, qui sont tenus par des congrégations religieuses. Pour autant, on a un rapport avec les administrations de tutelle de tous ces organes-là, parce qu'il y a un sujet de rapport aux faits religieux. Alors évidemment, c'est d'autant plus vrai dans les aumôneries. Alors les aumôneries, on a quasiment une co-tutelle sur les aumôneries, parce que le ministère ne sont pas extrêmement à l'aise dans les rapports qu'ils ont avec les aumôneries. Et là où je disais tout à l'heure que les aumôneries, c'est un exemple qui est intéressant, c'est que les aumôneries, à la fois, c'est... la pénétration du fait religieux organisé au sein des administrations, c'est en même temps le phagocytage du fait religieux par l'administration, puisqu'une fois que c'est dans l'administration, une fois que vous avez les aumôneries organisées au sein des armées, vous avez concrètement des gens qui sont des militaires, qui ont des grades, enfin, qui n'ont qu'un seul grade, mais en tout cas qui sont dans les hiérarchies, et qui obéissent à leur hiérarchie militaire, mais pour autant, pas surtout. Et en fait, ce point de contact-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il y a cette interpénétration qui est plus ou moins forte en fonction de l'aumônerie dont il est question, mais qui recèle aussi des enjeux de pouvoir qui sont très forts dans les administrations. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère de la Justice comprenne, et ils le savent, hein, je vous rassure, hein, comme le ministère des Armées et le ministère de la Santé, Ben que quand il s'agit de questions religieuses, ben, les aumôniers ne sont pas sous l'autorité de la chaîne hiérarchique administrative. Et par ailleurs, que lorsque les ministères dialoguent avec le CFCM, par exemple, sur la nomination d'un aumônier national, ben, il garantit qu'au sein du CFCM, ça se coupe. Et c'est compliqué à comprendre pour les ministères le jeu d'acteurs qu'il y a derrière les décisions concernant les nominations sur les aumôneries. Donc il y a toute cette activité-là qui est une activité en réalité d'expertise pour le compte du reste de l'appareil d'État et pour le compte des autorités politiques. Et je citais tout à l'heure donc, la crise sanitaire. Donc, vous l'avez vu, la crise sanitaire, ça a été des grands moments de dialogue. Pardon ? De dialogue dans tout ce que ça peut valoir. Qui a donné lieu d'ailleurs à des jurisprudences du Conseil d'État très très fortes sur la liberté de culte, qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Alors, c'est les ordonnances de référé. Mais qui ont été. Parfois, le dialogue au sein de l'État, il n'est pas plus simple que le dialogue au sein des cultes. Hein. Mais. Et donc là, voilà, encore une fois, quand il s'agit de discuter des conditions de levée des mesures de confinement, c'est évidemment pas le Bureau central des cultes qui décide, et très 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 loin, des cercles qui décident de ces questions-là, heureusement d'ailleurs, parce qu'en matière d'épidémiologie, on n'est pas très compétent. Et pour autant, bah, la question du dialogue avec les cultes est beaucoup organisée par vous, sous contrôle dans le cabinet, que ce soit pour écouter ce que les cultes vont dire, pour éclairer... les décisionnaires sur leurs contraintes. La communion sous les deux aspects dans certains cultes, ou à la cuillère dans certains, ça n'a pas les mêmes implications en termes de sécurité sanitaire qu'une simple bénédiction à distance. Et pour autant, il n'appartient pas aux autorités publiques de déterminer la liturgie. Voilà, donc ça suppose des positionnements de discussion qui sont... à la fois capable de comprendre et en même temps de passer chacun chez soi, parce qu'il y a une constante dialogue, quel que soit l'interlocuteur, des aspirations paradoxales. Hein, c'est à la fois on aspire à être libre, mais en même temps on dise des choses. Et par exemple, les protocoles de déconfinement qu'on a cités avec les cultes, c'est vraiment nous qui l'avons fait. Bah, parfois, il y a les cultes qui étaient en demande de oui, mais dites-nous, s'il vous plaît, ça nous sera utile que vous nous disiez comment organiser nos rites. Notre réponse, c'était, nous, on dit pas de contact, mais après, les rites, c'est vous qui les organisez, donc c'est pas nous. Et c'est ça le. Voilà, et à chaque fois, on touche encore à ce que j'expliquais au propos liminaire, sur le fait qu'on est en train de jouer en permanence, en train de toucher en permanence entre la liberté interne des cultes, que pour leur bien et pour le nôtre, on n'a pas à toucher, et notre propre liberté, qui fait que le régime de séparation fait qu'on n'est pas soumis à la volonté ou aux prescriptions des différents cultes. Et les aspirations d'interpénétration, elles sont dans les deux camps, forcément. Voilà sur un peu le cadre général. Je ne sais pas si vous avez donc des questions et s'il y a des points que je peux approfondir.